réfugiés en Ouzbékistan, fuyant les violences au Kirghizistan voisin. Depuis 4 jours, cette ancienne république soviétique est en proie à des conflits interethniques. Un bilan provisoire fait état de 124 morts et 1600 blessés.
Dans le prochain pont des artistes, Isabelle Dordain donne carte blanche à Olivia Ruiz.
Il est parti ce matin, je ne l'ai pas retenu.
Avec Moriarty, Christian Olivier et la Coterie et Juliette.
Rendez-vous pour l'enregistrement de l'émission mercredi prochain à partir de 18h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter. France Inter, partenaire de Jazz à Vienne du 25 juin au 9 juillet. Les voix sont à l'honneur pour cette 30e édition avec Karl Brown, Angelique Kidjo pour un hommage à Myriam Makeba, The Maotela Queens, Diana Krall, Norah Jones. Et sur France Inter, en direct du 5 au 9 juillet, de 22h à minuit, Summertime d'Elsa Boublil. Renseignements, franceinter.com.
France Inter, partenaire de Francofolie de La Rochelle du 13 au 17 juillet. 5 jours de live, plus de 120 concerts. M, Jacques Dutronc, Émilie Simon, Phoenix, Carmen Maria Vega, Tété, Indy Zara, Alain Souchon. Retrouvez-les dans le programme de France Inter. Les Francofolies de La Rochelle avec France 4 et France Inter. Renseignements 05 46 50 55 77 et sur franceinter.com.
France Inter. La différence.
À 15h05 sur France Inter, Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Un petit mot pour la matinale de France Inter. Pour le travail salutaire et l'utilité publique de Porte, Guillon, Mermet, battons-nous. Que l'ironie, l'insolence et l'irrespect du politiquement correct nous soulagent de ce quotidien bien huilé, irrémédiablement révérencieux, voué à ceux qui engrangent la thune et le pouvoir. Les petits, il nous reste le parti d'en rire ou de s'émouvoir. À vous, les insolents, merci de nous rappeler que la solidarité est un noble mot. Et je vous dis mes gros mots, plein de gros mots, en super lettres majuscules. Je vous aime et continuez.
Un soir, je croise dans le quartier un groupe de militants UMP qui collaient des affiches. Et je reconnais René, qui travaille à la mairie. Oh René, qu'est-ce que tu fais ? J'encolle Sarkozy. Qu'est-ce que tu dis ? J'encolle Sarkozy. Tu encolles Sarkozy ? René, c'est une flèche. Il écorche toujours les noms propres, même celui du président.
Bonjour à Daniel Mermet et à toute son équipe. Bonjour aux auditeurs. Je voudrais dire deux mots du pique-nique résistant que l'on a organisé avec le Repère de Bérien pour répondre à l'appel du CNR de 2004. Il a eu lieu hier donc dans le village de Trédudon, dans les Monts d'Arrée, dans le Finistère. 1000 à 1200 personnes sont venues pique-niquer, certains avec leurs instruments de musique. Et après le repas partagé, certains ont dansé ou écouté les biniou et les bombardes. Pendant que dans le bas du pré, s'auto-organisaient des débats dont les thèmes avaient été préalablement inscrits sur un panneau à l'entrée du pré par les participants eux-mêmes. Débat autogéré donc par les participants, certains ont regroupé 5 à 10 personnes, d'autres 20 à 30. Le plus important a regroupé 250 personnes environ autour du thème résistance et désobéissance civile.
Zapatero a été obligé d'accepter une audience avec le pape Ratzinger. Alors José Luis, ça le perturbe, il est socialiste dans un état laïque quand même. Du coup, il est distrait, il fait n'importe quoi. Il voulait appliquer la décroissance à toute l'Espagne, voire même à toute l'Europe, mais il s'est un peu trompé dans ses calculs, et au lieu de taxer les riches et les activités toxiques, il a taillé dans les dépenses publiques, le con. Heureusement, le professeur Schneider, François, et le camarade Henrik Duran seront là pour mettre les choses au clair et débattre de la décroissance. Où ça ? Bah, au Café Repère de Barcelone, chez Christian, au Glaciar, sur la Place Areal, demain, mardi, à 20h30. Adresse et info sur le blog La Barna, si j'y suis.
C'était pour dire qu'en fait, l'année dernière, avec Emmaüs, dans le 13e arrondissement, on voyait 25 personnes. Le vendredi soir, on voyait 25 personnes en une soirée, et en 2010, on en voit 50. Les bénévoles de Emmaüs, ils sont débordés, désespérés. Est-ce que tu peux, par exemple, faire un reportage, j'en sais rien, aller faire des témoignages dans le 13e, gare d'Austerlitz, tu vois. Dans ce secteur, tu vas en trouver des dizaines. Merci.
Ici, c'est de nouveau Mohamed de Lens, tu te souviens, le jeune homme dans la manif parisienne des infirmiers anesthésistes. On avait donné rendez-vous à notre cher ministre à Roubaix, mais bon, Roubaix, ça n'allait pas, donc on souhaitait se rendre à Renduflier, mais vu le comité d'accueil assez conséquent de CRS et de vigile du privé, on a préféré décliner sa invitation un peu musclée, et on s'est rendu dans un petit cadre un peu plus bucolique au centre équestre de Saint-Venant, où nous avons pu voir notre cher ministre. Bon, elle était un peu surprise de nous voir, on s'y a invité, sans vouloir trop perturber la cérémonie, et on a pu lui porter nos doléances, mais rien de rassurant. Hein. Elle est toujours dans la reformulation, elle ne comprend pas que les infirmiers anesthésistes, si le mouvement continue, c'est parce que ce qu'elle a dit jusqu'à présent n'était pas rassurant. Et donc, on se dit à très bientôt, chère Roselyne, et voilà, on se reverra.
Moi, j'ai une bonne nouvelle pour tous les auditeurs et auditrices de là-bas, si j'y suis. A priori, ces prochains mois, c'est sûr, le chômage va baisser. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait, là, je viens de me connecter à mon espace Pôle emploi, qui a changé là depuis récemment. Et en faisant mon actualisation pour le mois, je viens de me rendre compte que je n'étais plus inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Parce que je viens de trouver un contrat aidé associatif, voilà. Donc voilà, et normalement, quand on a un contrat aidé comme ça précaire, avant, hein, on avait droit de rester sur la liste des demandeurs d'emploi. Alors après, on m'a proposé sur le site du Pôle emploi de me réinscrire, ce que j'ai essayé de faire. Et alors là, ce qui est amusant, en fait, c'est que au fur et à mesure qu'on remplit le questionnaire, on dit oui, je veux me réinscrire, pourquoi, non, j'ai pas été licencié, autre demande, etc. Ma situation actuelle, donc je suis soit disponible, soit, bon, il y a une option, en contrat aidé, je remplis toutes les questions. Et là, quand je valide, on me dit, vous n'êtes pas actuellement disponible tout de suite, donc vous reviendrez vous inscrire le jour où vous serez tout de suite disponible. Comme ça, je sors de la liste des demandeurs d'emploi, je ne suis plus officiellement chômeur, même si je suis dans une situation de contrat aidé qui ne me satisfait pas totalement. Mais en plus, en même temps, le jour où je voudrais renouveler mon contrat aidé, comme je ne serai plus demandeur d'emploi, je ne pourrai plus, puisque ce type de dispositif est réservé, bien sûr, aux demandeurs d'emploi.
Salut Daniel, je t'entends souvent venir à la rescousse des gens et dans ces cas-là je suis de tout cœur avec toi, mais là aujourd'hui je voudrais que tu nous donnes un petit coup de main pour une cascade, celle qui donne son nom au petit village de Salles-la-Source dans l'Aveyron. Je pourrais épuiser tous les superlatifs du vocabulaire, je n'arriverai pas à te faire seulement imaginer à quel point elle est belle notre cascade, enfin quand elle coule, c'est-à-dire pas très souvent, parce qu'elle est dérivée sur une microcentrale électrique. Et oui, Daniel, il y en a qui osent tout. Mais aujourd'hui, que la concession octroyée au concessionnaire arrive à son terme, eh bien, nous sommes tout un groupe dans le coin qui voudrions récupérer notre cascade, alors même que, évidemment, le concessionnaire entend ne rien lâcher de ses privilèges. Alors pour ça, nous organisons une réunion publique ce vendredi soir, 18 juin, à Salles-la-Source. Il faut vraiment qu'on soit nombreux. Merci Daniel de relayer ce message et puis tu viens quand tu veux avec nous voir couler notre cascade.
Et voilà ce qu'on demande à la base, si j'y suis, à la rescousse des gens, même pour ressusciter des sources. C'est vraiment une tâche magnifique que la nôtre. Merci pour tous ces messages, chers AMG. Mais voilà que des rumeurs nous parviennent à la base, si j'y suis, selon lesquelles les médias ne diraient pas toujours la vérité. Alors ça, c'est quand même, et c'est une rumeur tenace. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est intentionnel? Est-ce que c'est involontaire? C'est des grandes, grandes questions, parce que si les informations sont polluées, alors c'est toute la vie démocratique qui est pourrie. Et donc, c'est difficile à croire. Mais comment le savoir? Comment le savoir? Eh bien, il y a un procédé très simple qui consiste, pour ce qui nous concerne à la radio, à réécouter. Oui, voilà, tout simplement, réécouter des moments de radio, des informations, des émissions, etc. Et c'est ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui même, cher AMG. On va réécouter une émission concernant Jérôme Kerviel, l'affaire Kerviel et la Société Générale quand ce scandale a éclaté au début 2008. Et qui va nous en parler? Eh bien, le professeur Lordon. Le professeur Lordon, vous connaissez le professeur Lordon, jadis, pour connaître l'avenir, on examinait des entrailles de taureaux, on observait le vol des oiseaux, c'était très très compliqué. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup simplifié, on a fait des progrès en la matière, on demande simplement son avis au professeur Lordon. Et le professeur Lordon ne manque jamais de balancer et d'envoyer des flèche à ses confrères économistes avant de commencer. Vous avez remarqué ça, à chaque fois, il dit oui, enfin, alors, il cite pas toujours des noms, mais il suggère, celui-là, il s'est planté, il s'est replanté, et puis ça ne l'a pas empêché de revenir la semaine suivante. Alors, on va voir si le professeur, le si malin professeur Lordon, s'est, oui ou non, planté au sujet de cette affaire Kerviel, qui, vous le savez, rentre dans sa troisième semaine d'audience. C'est la grande affaire actuellement, et c'est absolument passionnant de voir ce jeune, un petit peu moins jeune d'ailleurs, trader face à la Société Générale s'accusant mutuellement, le tout pour des sommes quand même assez considérables. Donc, tendez bien l'oreille et voyons si ce 25 janvier 2008, le professeur Lordon s'est ou non planté, et on en tirera les conclusions et on verra si on continue d'en faire notre pitié. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour, j'aimerais bien m'adresser à Madame Christine Boutin pour lui dire que je trouve normal qu'elle laisse une partie de son salaire après avoir touché sa retraite. Je travaille moi aussi comme elle j'ai travaillé comme elle dans le service public. J'ai pris ma retraite en 2008, j'avais 58 ans et demi. J'étais infirmière, je m'étais arrêtée pour élever mes 3 enfants, donc je n'ai touché comme retraite que 54% de mon salaire de base, soit 1200 euros. L'année dernière, dans le secteur public, j'avais la possibilité d'effectuer quelques remplacements, ce que j'ai fait. En tout, pour toute l'année, j'ai travaillé 15 semaines et j'ai perçu 703 euros de trop, ce qui revient à un peu plus de 60 euros par mois, si on ramène ça à l'année. Eh bien, j'ai remboursé ces 703 euros. Ils m'ont été automatiquement prélevés. Je n'ai pas rechigné. J'ai trouvé que c'était juste. Puisque j'avais ma retraite, j'avais eu un petit avantage jusqu'à 60 ans de travailler encore un petit peu. Je l'ai fait. J'ai dépassé ce que je devais toucher. J'ai remboursé. Madame Boutin, vous n'êtes pas la seule du service public à avoir une retraite et à devoir vous en contenter. Alors, de grâce, Madame Boutin, vous ne ferez pleurer personne.
Vous avez peut-être entendu, comme moi, que les experts gouvernementaux américains estiment que la quantité de brut qui s'échappe chaque jour de la plateforme BP près des côtes louisianaises est 4 à 5 fois supérieure aux 800 000 litres quotidiens reconnus par la compagnie pétrolière. 80 000 litres, ça fait 80 tonnes. Si on multiplie ça par 4 ou 5, ça nous fait 320 à 400 tonnes quotidiennes déversées. On fait une moyenne basse à 350 tonnes par jour. Ça représente le dixième d'un pétrolier géant. Un pétrolier géant, ça fait 3500 tonnes. Ça veut dire qu'il s'échappe à l'heure actuelle l'équivalent de la totalité d'un pétrolier géant tous les 10 jours. Ça fait 2 mois que ça dure, ça fait déjà 6 pétroliers qui sont dans la mer et c'est pas fini. C'est assez terrifiant.
Salut, c'est la basse et j'y suis, Daniel Mermet, avec Frédéric Lordon, Société Générale. On est là pour vous aider.
Flight number 2, arriving from New York.
RTL Soir. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi.
La Société Générale, apparemment victime de l'un de ses traders, à lui seul, il aurait fait perdre près de 5 milliards d'euros à la banque.
La Société Générale annonce avoir été victime d'une fraude exceptionnelle de près de 5 milliards d'euros. Selon la banque, l'un de ses courtiers serait l'unique responsable.
C'est donc un homme seul qui aurait réussi à duper l'une des plus grandes banques européennes, la Société Générale.
Stupeur et incompréhension ce matin au pied de la tour Société Générale, au cœur du quartier d'affaires de la Défense. Près de 5 milliards d'euros évanouis à cause des opérations frauduleuses d'un seul employé malhonnête.
Alors là, cher Lordon...
Oui, cher Mermet...
Là, ça, c'est du gros. Ça, c'est du lourd.
C'est du lourd.
La Société Générale, victime d'une fraude massive, et la masse de la fraude, c'est 7 milliards d'euros. La Société Générale, en ce vendredi 25 janvier 2008, a perdu, nous annonce Le Monde, le quotidien Le Monde, 7 milliards d'euros, ce qui est quand même assez considérable. Mais c'est le fait d'un seul homme. C'est un gars qui travaille à la Société Générale et qui est un bon informaticien et qui, nous dit-on, je résume, je ne fais que résumer, a réussi à détourner... Alors, on ne sait pas très bien, je n'ai pas très bien compris si c'est 5 ou 7 milliards. Bon, on a compris. Ma question transpire l'incompétence. C'est pour ça, cher Lordon, que vous êtes là.
Mais, cher Mermet, non, la question qui transpire l'incompétence et qui fait faussement son candide, c'est comme toujours la question qui tue, parce que ce qu'il y a à comprendre, c'est que tout est fait exprès pour qu'on ne comprenne pas. Donc, en particulier, cette histoire de 7 milliards, dont on nous dit que ça se décompose en 5 plus 2, c'est-à-dire quand même un gros bout de fraude et un petit bout de perte, c'est qui permet de tout mettre sur le dos de ce pauvre type, enfin, je m'exprime par litote ou par antiphrase plutôt, qui, à lui tout seul, avec ses petits bras musclés, aurait fait péter le record des, toutes annales confondues, hein, du montant de la fraude financière. Puisque 5 milliards, il paraît que là, vraiment, c'est du jamais vu.
C'est vrai ou pas ?
Alors, évidemment, moi, je ne peux pas me défaire d'un mauvais esprit et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on est en train de nous raconter un conte édifiant pour enfants en bas âge. Et je serais presque prêt à faire au micro un aveu de paranoïa et de verser dans le conspirationnisme le plus honteux, avec toutes les conséquences que je suis prêt, évidemment, à assumer. Et une histoire déjà beaucoup plus convaincante me semblerait être la suivante. Certes, il y a un bonhomme qui, au courant des méandres informatiques du back-office de la Société Générale, a réussi à tripatouiller quelques comptes et à monter quelques combines, et il a détourné des sous, ou plus exactement, il en a perdu un bon volume. 5 milliards, très franchement, à lui tout seul, j'en doute extrêmement fort. Le cas qui fait précédent, c'est le célèbre Nick Leeson, qui au milieu des années 90 avait mis la Barings quasiment en faillite à lui tout seul et avait perdu des sommes qu'on jugeait pour l'époque astronomiques, mais enfin c'était tout de même 170 millions de livres. Bon, je sais bien que tout augmente, n'est-ce pas, mais entre 170 millions de livres et 5 milliards d'euros, il y a tout de même un sacré écart. Donc, à côté de notre fâcheux et de notre nuisible de la Société Générale, Nick Leeson est à peine un voleur de scooter. Bon... Donc déjà, c'est un petit peu suspect. Et mon sentiment, alors là je verse là complètement déboutonné dans ma thèse paranoïaque, qui est la suivante. Mon sentiment, c'est que Daniel Bouton, président de la Société Générale, campe obstinément sur une position de dénégation obtuse de tout problème qu'aurait rencontré la Société Générale depuis que la crise des subprimes a éclaté, c'est-à-dire depuis l'été 2007. Ça fait 8 mois qu'il résiste à la perspective d'annoncer la moindre perte de ce compartiment des marchés financiers, et jusqu'ici, il semblait avoir tenu bon. Et voilà que le même jour, il nous annonce que certes, la Société Générale a perdu 2 milliards d'euros sur ses produits dérivés des crédits hypothécaires américains, mais que par-dessus tout, et c'est quand même ça la chose importante, elle en a perdu 5 grâce à une fraude. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser que l'annonce simultanée des deux choses a pour vocation de faire mieux passer les 2 milliards d'euros de pertes dans le grand flot de scandales qui va accompagner les 5 milliards de fraudes. Et si vous voulez tout savoir, moi j'aurais tendance à penser que ce brave type de la Société Générale a certes perdu, mais pas tant qu'on lui en prête, et qu'on a dû passer avec lui une espèce de deal du genre « soit nous te brisons », soit tu vas accepter de porter un chapeau un petit peu plus grand que celui que tu as déjà sur la tête. Et ainsi, on va faire passer en fraude quelques autres milliards d'euros que nous avons bel et bien perdus en subprime, de sorte qu'au total, l'affaire de la Société Générale sera un fait divers, un événement malheureux, la faute à un mouton noir ou à une pomme pourrie, plutôt que de mettre en cause les fonctionnements ordinaires de la finance, qui l'ont conduite, elle, comme beaucoup d'autres banques, à perdre sa liquette.
Jérôme Kerviel, 31 ans, est peut-être l'homme qui a fait perdre près de 5 milliards d'euros à la Société Générale. Un courtier prometteur, doué en informatique, qui gagne 100 000 euros par an et travaille dans la salle des marchés.
Là, on a un coupable parfaitement identifié pour prendre la foudre.
Il est mis en examen, il est arrêté, qu'est-ce qu'on en fait ?
Alors, la dernière fois que j'ai entendu Daniel Bouton parler du sujet, ça devait être à midi aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, je m'excuse de casser l'enchantement de la radio, mais je voudrais préciser qu'on est jeudi. Jeudi combien ? On est jeudi 24. Alors, je dis ça non pas comme une manœuvre de trahison qui briserait le charme du faux direct, mais parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas fini quand même de parler de cette affaire Société Générale et que le débat pourrait rebondir sur cette question de manière un petit peu torrentueuse. Donc voilà, il est possible qu'on reparle de tout ça, donc je ne voudrais pas avoir l'air du crétin de service qui redécouvre l'eau tiède après que tout le monde... voilà, bon.
Alors, 5 ou 7 milliards... Qui paye ces 5 ou 7 milliards ? C'est les clients de la banque, c'est l'État, c'est la banque centrale, c'est...
Non, pour l'instant, c'est personne, c'est la Société Générale qui prend ça pour elle. Ça va faire des pertes ou des résultats moins gros dans ses comptes. Alors, Daniel Bouton continue de se gargariser qu'en dépit de ces événements malheureux, l'exercice de 2007 dégagera un bénéfice net de l'ordre de quelques centaines de millions d'euros, là où il aurait dû être beaucoup plus resplendissant s'il n'y avait pas eu ces 7 milliards évaporés, bien sûr. Mais pour l'instant, ce sont des pertes qui sont enregistrées dans les comptes de la Société Générale et par elle seule. Et pour l'instant encore, l'État n'a pas à intervenir parce que la Société Générale n'est pas techniquement en situation de faillite. Ce ne sont pas les clients qui sont spoliés.
Les clients ne sont pas spoliés, mais ils toucheront moins. Il y aura moins pour les actionnaires, pour les non.
Non, alors les clients, c'est une chose. Non, les clients, ils continueront, pour ceux qui ont de l'épargne rémunérée, ils continueront de toucher ce qu'ils touchaient jusqu'à présent, sauf variation ultérieure des taux d'intérêt. Mais ça, c'est décidé par la Banque Centrale, donc c'est une autre affaire. Quant aux actionnaires, alors là, c'est toujours la question. Normalement, quand le profit d'une entreprise baisse, les dividendes versés aux actionnaires baissent également. Mais comme on est dans le monde merveilleux du capitalisme actionnarial, où la puissance sociale dominante, précisément, ce sont les actionnaires, tout est fait pour leur éviter le moindre désagrément. De telle sorte que s'il y a des ajustements à faire à la suite d'un accident économique qui vient entamer les profits, on se débrouille pour que ce soit n'importe qui d'autre qu'eux qui éponge les dégâts. Alors, c'est par exemple, c'est tout à fait patent dans le cas des grandes banques américaines, et en particulier de l'une de celles qui a le plus perdu jusqu'à présent sur les marchés financiers, à savoir Citigroup. Et pendant très longtemps, alors que des pertes astronomiques étaient avérées, Citigroup a freiné des quatre fers à l'idée qu'on pourrait entamer le dividende versé aux chers actionnaires. La catastrophe prend une ampleur telle maintenant qu'il commence à se faire gentiment à cette idée. Mais c'est pour dire que vraiment, on l'envisage en tout dernier ressort.
L'événement de ce jeudi 24 janvier, c'est la Société Générale qui a été victime d'une fraude. Un de ses employés aurait détourné 5 milliards d'euros.
La Société Générale a perdu 5 milliards d'euros à cause d'un homme. Un homme seul qui les a volés. Un homme également connu pour avoir creusé le déficit commercial de la France de 40 milliards d'euros en une seule nuit. Le même homme que l'on a aperçu à Roissy lors du crash du Concorde en 2000. Un homme chez qui a été retrouvée l'arme qui a tué Kennedy et qui est responsable du recrutement au PSG depuis 7 ans. Alors oui, la Société Générale a bien été victime de cet homme et ça n'a évidemment rien à voir avec la crise des subprimes.
Et c'est aussi lui qui nous a volé la victoire au présidentiel.
Non, faut pas exagérer.
Ben, j'aurais essayé.
Je sais que tu n'es pas d'accord avec la façon dont parfois je traite les gens, tu sais. Ça n'est pas si facile de s'assumer, mais il faut bien gagner de l'argent. Alors, tu n'as que 18 ans, mais bientôt tu comprendras mes difficultés. La chance ne m'a pas toujours souri, et c'est vrai que je ne peux plus vraiment reculer. Mais l'argent, de l'argent pour les gens.
Alors, on continue avec Frédéric Lordon. Tout ce que vous voulez savoir sur ce qui se passe à la Société Générale, la crise, la bourse, comment s'enrichir, c'est un numéro spécial de Là-bas si j'y suis. Et avec nous, Renaud Lambert, qui voulait poser une question à Frédéric Lordon.
Oui, parce que Frédéric Lordon, vous nous parlez de ce qui se passe en ce moment à la Société Générale, et puis du côté un petit peu fait divers de la traque à ce fraudeur qui a volé 5-7 milliards à la Société Générale.
Mais il y a 5, on t'a dit, on a dit 5.
On a dit 5, ouais. Bon, alors c'est 5. Et puis, il y en a deux autres qui viennent d'autres problèmes. Le mot était lâché tout à l'heure, les subprimes. Mais pourquoi mettre en avant ce fait divers et quel intérêt pour des gens comme Bouton, le PDG de la Société Générale, à mettre en avant ces pommes pourries qui finalement mettent en péril le système, un système qui peut-être par ailleurs fonctionne bien.
Mais voilà, le système est sain et tout l'avantage de Daniel Bouton dans cette manœuvre, c'est de passer du statut de coupable à celui de victime. Et quand même, on accordera que c'est avantageux, quoi. Entre... Je suis le président d'une banque qui, par ses prises de position inappropriées, a perdu 7 milliards. Et je suis le président d'une banque qui a été injustement et tragiquement flouée par un de ses employés indélicats. On voit tout de suite la différence. Hein. Bon. Alors, il faut bien dire les choses. C'est une figure de style vieille comme le capitalisme déréglementé. C'est la faute, non pas à pas de chance, mais c'est de la faute aux malhonnêtes. Voilà. Et cette comédie récurrente, hein, je veux dire, qui fait plus rire personne, on en a déjà eu l'illustration lors de la crise qui était survenue au début des années 2000 avec l'éclatement de la bulle Internet. À l'occasion de quoi, tout le monde s'était précipité sur Enron, WorldCom et leur patron indélicat qui avait maquillé les comptes, détourné un peu d'argent pour eux, s'était fait payer des baignoires à la robinetterie en or massif, etc., etc. Et évidemment, tout l'avantage de la manœuvre, c'est que pendant qu'on parle des robinets en or massif, on ne parle pas d'autre chose. Et il reste toujours la possibilité de dire, brave gens, n'ayez pas peur, le système est fondamentalement sain, certes, mais c'est la vie. Il reste quelques malhonnêtes en circulation qui n'ont pas encore été mis en cabane. Dès qu'on leur aura mis la main au collet, vous pourrez dormir à nouveau tranquille.
Alors qu'en fait, c'est tout le système qui est pourri, Frédéric. Franchement, faut nous le dire.
Je voudrais pas avoir l'air de quelqu'un d'excessif, mais j'ai bien peur que oui. La preuve en est d'ailleurs que bon nombre d'autres banques, et des plus fameuses et des plus réputées sur la place américaine, on pourrait citer Merrill Lynch, Citigroup, Morgan Stanley, etc., sont en train, si vous me permettez l'expression, de manger chaud, et ceci depuis le mois de juillet 2007. Et alors celles-ci n'ont pas eu la fortune de se trouver un petit aigrefin qui aurait tripatouillé leur compte ou qui aurait passé quelques ordres un peu scabreux dans un coin de la salle des marchés. Non, je veux dire, ces milliards de dollars dont les annonces sont sans cesse révisées à la hausse. Hein. Il faudrait reprendre la chronique des annonces de pertes réalisées par Merrill Lynch ou par Citigroup. Et tous les mois et demi ou tous les deux mois, on a droit à une révision qui nous fait à chaque fois dégringoler plus bas les yeux des orbites. C'est absolument sidérant. Bon, j'allais dire, ces milliards de dollars ont été perdus à la régulière. C'est-à-dire en conformité avec la logique la plus pure du système financier, qui est celle qui a emporté la totalité du système dans cette espèce de délire collectif, car le délire collectif est en fait, il faut bien le dire, le mode privilégié de fonctionnement de la finance spéculative, dans ce délire collectif qui restera, très franchement, hein, dans les annales de l'histoire du capitalisme. Mais, je veux dire, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la déréglementation financière nous gratifie d'épisodes qui sont chaque fois d'une magnitude plus importante, et on a l'impression que le record est battu et qu'on ne le dépassera pas, et le coup d'après, ça fait toujours plus fort.
Mais là, sauf que quand même, vous nous rassurez concernant la Société Générale. La Société Générale...
Non, je me rassure parce que j'ai mon compte à la Société Générale.
Bon, ben oui, mais vous n'êtes pas affecté.
Non, je serais... Pour l'instant, j'y ai laissé mes économies.
Donc, c'est parfait. Donc, on apprend que la Société Générale gagnera moins cette année, mais ça n'affectera pas ou pas beaucoup les clients, parmi lesquels on compte Frédéric Lordon, les clients de la Société Générale. Mais quand même, cette semaine, indépendamment de la Société Générale, on a vu, lundi c'était le crack, mardi non, mercredi ça recommence, etc. C'est up and down, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? C'est-à-dire, quels sont les effets? Après tout, moi j'ai, oui, j'ai un compte moi, au Crédit Lyonnais. Bon, alors, on est tous mouillés.
On finira alors, tous en liquette.
Voilà, voilà. Moi je suis inquiet pour mes petits sous, pour mes petites noisettes.
Alors, je comprends.
Me dis quel lien, quels effets, non mais quels effets sur les braves gens que nous sommes, ces histoires?
Bah, c'est compliqué parce que on peut, c'est un peu comme en physique. On peut regarder un même objet à différentes échelles. Alors, on peut regarder la chose en plan très serré. En plan très serré, qu'est-ce qu'on voit? On voit ces espèces de montagnes russes boursières. Un jour, ça monte, le lendemain, ça descend. Lundi, catastrophe. Les traders se pendent par leur cravate. Mardi, ils respirent et on fait péter les bouteilles de champagne, etc. Bon. Et c'est incompréhensible. On peut regarder la chose en plan un peu plus lointain. Ces épisodes de stop and go, de je déprime, j'euphorise, etc., ça monte, ça descend. Ces épisodes s'inscrivent dans le profil caractéristique de cette crise qui dure depuis déjà 8 mois maintenant, hein, et qui procède précisément par à-coups. C'est-à-dire que la communauté financière a d'abord pris conscience que là, elle était en train de filer un mauvais coton, et les premières secousses sont arrivées. Elles ont été très violentes, elles ont eu lieu au mois d'août, au milieu du mois d'août. Et puis, on a repris légèrement espoir. Mais ça a replongé dès le mois de septembre. Et c'est ainsi, sachant que la communauté financière, d'abord, aime à se rassurer elle-même, pour une raison extrêmement simple, c'est que il vaut mieux que l'euphorie se maintienne aussi longtemps que possible, ou lorsque l'euphorie a disparu, que le moral reste aussi bon que possible, parce que tant que le moral est bon, on achète, et tant qu'on achète, les prix ne baissent pas. Donc, collectivement, les opérateurs de la finance ont intérêt à partager la même opinion optimiste et à communier dans la frénésie d'achat. Mais évidemment, cette raison-là n'est pas suffisante pour se donner réalité à elle-même. Donc, régulièrement, il y a une espèce de goutte à goutte ininterrompue de mauvaises nouvelles qui reviennent périodiquement et qui renvoient tout le monde dans le cafard le plus noir, à l'occasion de quoi on a de nouveau un accident de marché, alors soit sur le compartiment des dérivés de crédit, soit sur le compartiment des actions, parce que évidemment, ce qui s'est produit dans la sphère des marchés de crédit est un événement qui a une puissance d'irradiation absolument extraordinaire. Ça rayonne vraiment là, ça rayonne dans toutes les directions du capitalisme, et d'abord dans toutes les directions de la sphère financière. Donc il était logique qu'à un moment ou à un autre, les marchés d'actions fussent atteints à leur tour. Et c'est ce qui s'est produit. Et ils ont été atteints par différents truchements. Ils ont été atteints d'abord parce que, à l'origine, ce sont les banques qui ont pris les premiers chocs. Et donc les valeurs bancaires ont été massacrées en bourse. Donc les marchés d'actions étaient tirés par la déconfiture des valeurs bancaires. Bon, voilà, ça c'est facile à comprendre. Les marchés d'actions ont également souffert du fait que beaucoup d'institutions financières qui, à la suite du choc subprime, se sont retrouvées dans des situations de liquidité très tendues, ont, pour en sortir, vendu tout ce qu'elles pouvaient vendre, et en particulier ce qu'elles avaient en portefeuille de meilleure ou de moins mauvaise qualité, et notamment des actions. Donc beaucoup d'institutions financières se sont mises à vendre des actions en catastrophe pour retourner au cash, pour redevenir liquide. Ça, ça n'a pas aidé les bourses non plus. Et puis maintenant, on a un troisième temps, ou une troisième temporalité, en quelque sorte, de la conséquence boursière de ce choc subprime, et qui est plus grave d'une certaine manière, parce que ça se généralise. Et cette conséquence, elle vient du fait que, là aussi, après avoir résisté pendant un bon trimestre à l'idée qu'une récession allait s'en suivre de ce choc financier, après avoir résisté pendant un bon trimestre, les gens commencent à s'y faire doucement. Douloureusement, mais doucement. Et désormais, l'opinion majoritaire dans ces marchés, c'est que la récession aura bien lieu. Et il faudrait même qu'elle soit sévère, se disent-ils. Alors si la récession est là, évidemment l'activité des entreprises va emporter la marque, les entreprises auront moins d'activité, donc elles auront moins de profits, donc voilà une bonne raison pour que les actions baissent dans 6 mois, moyennant quoi on les vend dès aujourd'hui. Mais là, on voit bien que c'est plus seulement les valeurs bancaires qui sont marquées, c'est la totalité de la bourse qui déguste.
Telle était l'analyse de Frédéric Lordon le 25 janvier 2008 dans la base, si j'y suis, au sujet, vous avez compris, de l'affaire Kerviel, Jérôme Kerviel, le trader indélicat qui, actuellement, au tribunal, pour sa défense, dit j'ai pris des positions spéculatives risquées, oui, j'ai dépassé les limites fixées, oui, mais mes supérieurs me le demandaient, ça rapportait de l'argent. Donc voilà ce qu'il dit pour sa défense, ce que disent avec lui ses avocats pour sa défense. Vrai ou faux? En tout cas, à l'époque, en janvier 2008, notre Frédéric Lordon voyait la crise venir, non pas cette fois seulement la crise financière, boursière, mais la crise dans laquelle nous entrons, c'est-à-dire la crise, la rigueur, la fameuse rigueur qui serait censée régler et faire face à cette crise sur les salaires, sur l'emploi et sur la société tout entière qui est en train de gagner. J'évoque la bourse parce que le gars que vous écoutez, ce type qui s'appelle Frédéric Lordon, il est pour la fermeture de la bourse. Voilà. Il veut mettre tout ce monde-là dehors et en finir avec cette forme, cet aspect de la spéculation. Ça, je crois que c'est quelque chose qui relève du rêve, de l'utopie. Mais pourquoi est-ce que les économistes, surtout les hétérodoxes comme Frédéric Lordon, n'auraient pas le droit de rêver?
Cher Lordon.
Oui, cher Mermet.
Oui, c'est dans l'imagination de quelqu'un comme moi, qui suis un Français un peu archaïque, un actionnaire, c'est un type avec un chapeau 8 reflets, une chaîne de montre en or, et qui est assis avec des pommettes rouges et qui sort d'un grand restaurant. Or, un actionnaire, ça peut être aussi un salarié. C'est-à-dire que quand ça morfle, quand ça plonge, le salarié actionnaire morfle et plonge lui aussi.
C'est un archaïsme qui n'est pas si mal fondé que ça. Alors je vais prendre la question un peu à revers. En repartant de cette idée qu'il y a vraiment de quoi faire sortir de ses gonds, que lorsque la finance pète le feu, elle garde les gains pour elle, mais lorsque c'est la déconfiture, elle y associe tout le restant de l'économie et de la société. Et alors, dans cette affaire, on cherche quand même de quoi échapper à ces affects de colère, parce qu'il y a vraiment de quoi être scandalisé. Et alors, on se dit, mais finalement, dans cette affaire, bien sûr, toute l'économie va morfler, mais quand même, les institutions financières, elles sont en première ligne. Et on ne les aime pas particulièrement. Elles vont faire des pertes, et leurs actionnaires peut-être avec. Et ça n'est pas de nature à nous attrister. Bon. Et puis, quand on y réfléchit à deux fois, effectivement, on se dit, mais attention, les institutions financières, avec quoi elles jouent sur les marchés et accessoirement avec quoi elles perdent? Réponse, avec du crédit bancaire, souvent, mais aussi énormément, avec de l'épargne. De l'épargne de qui? De l'épargne des salariés. Ah mais ça, c'est nous les salariés. Alors là, c'est beaucoup moins drôle. Alors, à ce stade, il va falloir faire des différences, parce que toutes les économies ne sont pas logées à la même enseigne. La financiarisation du salariat n'a pas atteint la même extension dans les économies, on va dire, anglo-saxonnes, américaines et britanniques essentiellement, ou dans une...
Qui sont nos modèles.
C'est normal, ouais. Elles sont modernes. Et dans des économies, disons, paysannes, rurales et archaïques, comme les nôtres. Voilà. Alors, ça a un avantage, ceci, d'une certaine manière, l'archaïsme, c'est que les salariés qui sont véritablement mouillés dans l'épargne financière, c'est-à-dire ceux qui ont de quoi placer des sommes sur les marchés financiers, sont des salariés très privilégiés, ou privilégiés, tout court. Mais ce n'est pas le bas du salariat. Parce que le bas du salariat, dans le meilleur des cas, il a un livret A. Au mieux, il y ajoute un code EVI, et après, ça s'arrête là. Donc, pour commencer à jouer sur les marchés, il faut être un salarié de la haute. Donc, il est vrai que, de ce point de vue, la structure même du salariat français, et plutôt de son implication relativement modérée, pour l'heure, dans la financiarisation, a des propriétés en quelque sorte de justice sociale, si on peut dire. C'est de la justice sociale par la dévaine, mais tout de même, on se dit que bah voilà, Bernard Arnault, il a 10 milliards, il y en a beaucoup qui sont en bourse, s'il en perd 10%, on va retenir nos larmes. Hein. Il lui en reste 9, ça laisse de quoi s'acheter encore une caravane pour partir en vacances à Boulouris, c'est bon, là, il n'y a pas de problème. La situation dans les économies américaines ou britanniques sont extrêmement différentes. Parce que là, tous les salariés sont le grand bain de la finance, et ce, par le truchement d'un piège qui est absolument mortel, qui est la financiarisation de l'épargne retraite. Tous les salariés sont intéressés à avoir une retraite, et pour avoir une retraite, Si l'on met de côté des systèmes de répartition, des systèmes publics qui sont absolument misérables dans ces économies-là, on ne leur a pas laissé d'autre choix que de cotiser à des fonds de pension. Et les fonds de pension, ça joue sur les marchés. Et quand les marchés se retournent, les fonds de pension, ça perd.
Et donc, quand ça perd, on n'a plus de retraite.
Et c'est leur épargne retraite qui est en train de partir en fumée. Alors, pour ceux qui la prendront dans 10 ou 15 ans, ça leur laisse l'espoir d'attendre que, après la pluie, le beau temps. Mais pour ceux qui doivent liquider leur patrimoine retraite dans les 6 mois qui viennent, très franchement, il va falloir envisager de travailler plus que les 35 heures et que les 40 ans. Quoi.
Renaud a une question à poser à Frédéric Lordon. Attention.
Frédéric Lordon, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce phénomène assez curieux qui est qu'après avoir réclamé puis obtenu l'indépendance totale de ces banques centrales, de ces joujoux que sont les banques centrales, aujourd'hui on entend des voix se lever du côté de la finance pour exiger, pour enjoindre ces banques centrales qu'elles prennent les mesures évidentes et nécessaires pour un petit peu colmater le bazar qui part en vrille.
C'est en fait, je le peux. Je crois que je le peux.
Il peut le faire.
Il peut le faire. Le Sarabindranath Duval peut le faire. Mais c'est que les dominants du capitalisme ont l'idéologie très teintée de pragmatisme. C'est-à-dire, je veux dire qu'ils ont l'idéologie à géométrie variable. La doctrine vaut pour certains, dans toute sa rigueur, mais pour d'autres, il y a lieu d'être un peu plus accommodant. Moyennant quoi, l'indépendance de la Banque centrale, c'est bon pour ces gueux de salariés. Parce qu'au moins, la Banque centrale veillera. Et si jamais ceux-ci ont le mauvais goût de demander des augmentations de salaire qui dépassent l'entendement, des trucs du genre 2% ou 3%, les goinfres, la Banque centrale interviendra et serrera la vis avec ses taux d'intérêt. En revanche, lorsque c'est la finance qui est à la peine, la Banque centrale se montre tout de suite beaucoup plus coulante. Alors, je m'en voudrais de tomber dans une théorie un peu sommaire qui présenterait la Banque centrale comme le factotum ou le préposé du capital financier. Parce que la chose n'est pas tout à fait exacte. C'est pas que ces gens-là se détestent foncièrement. La plupart du temps, ils sont issus du même monde, les élites circulent d'une sphère à l'autre, et ils se retrouvent autour des mêmes cocktails et sur les mêmes terrains de golf. Mais pour autant, la Banque centrale a sa logique institutionnelle propre. Et dans sa logique institutionnelle à elle, il y a un truc qui lui déplaît très fort. C'est de se retrouver systématiquement pris en otage par les investisseurs institutionnels, qui l'appellent au secours dès que ça va mal. Et la Banque centrale de céder, non pas tant parce qu'elle serait le petit doigt sur la couture du pantalon au service des 10 investisseurs ou des puissances du capital financier, mais parce que la Banque centrale a fonctionnellement la responsabilité de la stabilité et de la pérennité du système financier dans son entier que peut menacer un accident de marché ou un accident bancaire quand il prend des proportions un peu trop importantes. Et qu'il y ait un rapport de force parfois entre le banquier central et les opérateurs de la finance, ça se voit en plusieurs occasions et ça s'est vu en particulier au début de cet été où le nouveau banquier central, là, le bleu, Bernanke, qui venait d'arriver, à la suite de Greenspan, dont tout le monde s'accorde à reconnaître avec un peu de recul que maintenant il avait fait preuve d'une largesse coupable tout de même avec ses amis investisseurs institutionnels, Bernanke voulait rompre avec cette pratique-là. Et il a tenté de résister aux demandes hystériques des investisseurs institutionnels de baisser immédiatement les taux d'intérêt dès que les premiers signes de secousse se sont fait sentir sur les marchés. Le malheureux n'a pas tenu 15 jours. Parce que les contraintes objectives de la situation de risque systémique s'imposaient à lui. Et il lui a fallu mettre les pouces.
Bonsoir et bienvenue à tous. Le grand plongeon des bourses partout dans le monde.
Une dégringolade mondiale. De l'Asie à l'Amérique latine en passant par l'Europe, toutes les places boursières ont connu un lundi noir.
Les bourses ont connu un lundi noir.
La crise est bien là. Pour Nicolas Sarkozy, cette crise est avant tout financière, mais la France serait moins touchée.
C'est aujourd'hui à 11h30 que Jacques Attali remet son rapport pour libérer la croissance.
Il contient 314 propositions, dont 20 mesures jugées fondamentales. Jacques Attali a prévenu, si
on veut relancer la France d'ici 2012, il faudra adopter toutes ces mesures.
Ah, mais c'est bien ça, effectivement. On a parlé de la Société Générale, on est vraiment dans l'actualité. Oui. La Société Générale, la crise financière, boursière, et évidemment la Commission Attali.
Oui, la Commission Attali. Oui,
Attila.
Oui, la Commission Attila. Oui, ça c'est vrai qu'après lui, rien ne repoussera. Ce qui ne va pas repousser en particulier, j'ai l'impression, c'est l'intellect de nos chères têtes blondes qui aura été dévasté dès le plus jeune âge. Moi, je n'ai pas lu la totalité du rapport, je ne connais pas toutes les mesures, mais alors celle-là, je dois dire qu'elle a fait particulièrement tilt.
C'est quoi ?
On va enseigner l'économie aux enfants dès l'école primaire. Pourquoi ? Parce que la France, qui est d'un archaïsme paysan dont tu es la personnification même, et moi avec, la France n'accorde pas la considération qu'elle mérite au désir de la richesse. La France est fâchée avec la richesse.
Oh.
Ah ben c'est Attali qui l'a dit. Donc. La richesse fait scandale. Alors qu'a-t-il dit, dans les pays anglo-saxons, c'est bien connu, c'est la pauvreté qui fait scandale. On ne doit pas vivre sur la même planète, quoi. Donc il faut apprendre, et ceci dès le plus jeune âge, aux enfants de France à révérer comme il convient les valeurs de la richesse. Et alors ça va paraître un détour bizarre, mais il se trouve que j'ai le privilège d'avoir le câble à la maison.
Mmh.
Et dans le câble à la maison, j'ai CNBC, qui est chaîne boursière américaine. Et CNBC, franchement, c'est un spectacle qui fait ma joie. Alors maintenant, je suis devenu accro, il m'en fout ma dose tous les jours. Si je ne l'ai pas, j'ai l'impression qu'il me manque un truc.
Non, c'est à Bernanke qui doit faire quelque chose. Il faut qu'il se bouge le cul. Ça donne une idée du bordel dans lequel on est. Mais Bernanke qui fait son universitaire à la noix. Mais putain, mais qu'il écoute deux secondes. Il n'a aucune idée du bordel dans lequel on est. Aucune. Aucune merde. Moi j'ai parlé au patron de quasiment toutes ces boîtes et je peux te dire qu'il n'a aucune idée de ce qui se prépare. Aucune. Les gens avec lesquels je bosse, ça fait 25 ans qu'ils font. Ils vont perdre leur boulot et ils vont perdre leur boîte. Il est fou quoi, merde. Ils sont nuls, nuls à chier. Et la Fed qui se bouge pas le cul, putain.
Ok, du calme. Je sais que c'est un sujet sensible qui vous tient à cœur, mais beaucoup de gens disent qu'il y a un certain type de prêt, d'accord, qu'on ne peut plus faire.
Personne ne peut obtenir un prêt aujourd'hui s'ils sont pas aussi riches que moi.
Qu'ils baissent les taux,
c'est tout.
Mais Kramer, si la semaine prochaine on baisse les taux, ce sera la fin du monde.
Mais on est déjà à la fin du monde.
C'est une chaîne d'une vulgarité insurpassable. Mais je veux dire, même le plus trash de la télé-réalité est en dessous de ça. Alors, évidemment, ça ne bézouille pas dans la piscine. On a des gens qui sont, j'allais dire, bien mis. Mais bon, ça porterait à interprétation. Ils sont bien habillés, je voulais dire. Hein. Ils sont en chemise blanche et cravate bien nouée, etc. Mais ils sont d'une vulgarité, mais c'est quelque chose de colossal. Et sur cette chaîne, les valeurs de l'enrichissement sont reines. Les pulsions de la cupidité se laissent avoir dans toute leur déclinaison et dans un registre mais quasi métaphysique et existentiel. Le fric, c'est chic, le fric, c'est bien, en avoir, c'est réussir sa vie, ne pas en avoir, c'est être un raté, etc., etc. Eh bien, je me dis que cette chaîne, dont je crois profondément qu'elle est encore improbable en France, je crois que cette chaîne finira par y trouver sa place. Et ceci moyennant les efforts conjugués de la commission Attali et de la politique de civilisation de notre cher président Sarkozy. Parce que cette politique de civilisation, on en a fait une bouffonnerie. Tout le monde s'est marré en disant « mais vraiment, c'est une outre pleine de vent », etc. Personnellement, moi, je la prends plutôt au sérieux et elle me fait un peu peur. Parce que la politique de civilisation, c'est-à-dire la réforme des entendements et l'acclimatation des nouvelles valeurs, c'est bien ça qu'entreprend la commission Attali en saisissant les esprits quand ils sont malléables, c'est-à-dire entre 5 et 6 ans, pour faire rentrer dans le crâne des enfants, que gagner du pognon quand même, ça c'est un vrai but et une vraie philosophie dans la vie. Eh bien, c'est cette philosophie-là qui triomphe sur CNBC. Pour ceux qui ont la chance de la voir et de saisir l'anglais bouillabaisse qu'on y entend, ça vaut le coup d'y aller voir parce que c'est une préfiguration de l'action civilisationnelle qu'on nous promet et très franchement, elle n'est pas belle à voir.
Tiens. Oui, mais Frédéric Lordeau, auparavant, on s'était aperçu, et ça n'a pas échappé aux chercheurs en économie que vous êtes, on s'était aperçu que dans les manuels d'économie destinés aux étudiants, il y avait un fond marxiste. On exposait l'économie, on expliquait les choses de la façon la plus marxiste qui soit. Il y a eu toute une campagne, on s'est aperçu qu'il fallait en finir avec ça. Donc je pense que l'enseignement que nos jeunes enfants vont recevoir va être débarrassé de cette vision des choses.
Nous pouvons l'espérer, Daniel Mermet.
Voilà, c'était le 24 janvier 2008, ainsi parlait Frédéric Lordon. On a réécouté cet entretien aujourd'hui, histoire de voir un peu comment ce qu'on vous met dans les oreilles tient autant, tient sur la durée. Est-ce qu'on se trompe? Est-ce qu'on se trompe pas? Est-ce qu'on prévoit? Est-ce qu'on analyse bien les choses? C'est vous qui tirez les conclusions. Il nous reste quelques instants et on va en profiter pour se mettre ceci dans les oreilles.
La race du Suisse. Écoutez, écoutez la race du Suisse.
que jamais, le gouvernement est aux côtés des PME pour donner un nouvel élan à l'économie française.
Depuis 2009, 500 000 auto-entrepreneurs ont choisi ce régime qui simplifie et favorise la création d'activités. Vous êtes auto-entrepreneur et vous souhaitez vous développer ?
Pour vous aider à faire les meilleurs choix, le gouvernement vous invite à rencontrer les experts du ministère chargé de l'économie et l'Union des auto-entrepreneurs à Planète PME le 15 juin. Parce qu'agir pour nos entreprises, c'est agir pour l'emploi.
Planète PME, mardi 15 juin au Palais des Congrès de Paris. Plus d'informations sur planetepme.org.
Bonjour, Cécile de Tabac Info Service, je peux vous aider ?
Bonjour, voilà, alors j'ai entendu dire que le tabac à rouler était moins nocif que les cigarettes normales.
Au contraire, les quantités de goudron et de monoxyde de carbone inhalé y sont plus élevées.
Oui, mais ça rend moins dépendant, non ?
Non, car il y a aussi de la nicotine qui rend dépendant. Mais rassurez-vous, il existe des solutions efficaces pour arrêter. On voit ça ensemble si vous voulez ?
Pourquoi pas ?
Vous voulez arrêter de fumer ? Appelez Tabac Info Service au 39 89 et bénéficiez des conseils personnalisés d'un tabacologue. 39 89, un service de l'INPES et du ministère de la Santé. 15 centimes la minute.
MAF Assurance, bonjour.
Bonjour Miss MAF. Alors, le crédit auto du pack Maxi Tranquille est à 2,90%.
2,90% TEG, oui c'est bien ça.
Et remboursable sur 12 mois, n'est-ce pas ?
Tout à fait.
Vous pourriez me le redire encore ?
En ce moment, le crédit automoto MAF est à 2,90% TEG sur 12 mois. Voilà.
Oh, vous le dites si bien.
C'est la MAF.
Offre soumise à conditions réservée aux particuliers jusqu'au 31 juillet 2010. Prêt automoto de 1600 à 45 000 euros distribué par MAF et OB de ma banque. Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d'un particulier avant l'obtention d'un prêt d'argent. Conditions détaillées au 0800 130 131. Appel gratuit depuis un poste fixe.
France Inter présente Copie conforme. Le nouveau film d'Abbas Kiarostami avec Juliette Binoche et William Schimmel. Dans les rues de Toscane, un homme et une femme jouent la comédie de l'amour. Copie conforme. En compétition officielle au Festival de Cannes, actuellement au cinéma. Retrouvez Copie conforme dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
Pile poil, 16h sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour la Basse. J'y suis, les infos. Corinne Audouin, salut.
Urgence humanitaire au sud du Kirghizistan. Des milliers de réfugiés sont massés à la frontière avec l'Ouzbékistan pour fuir les violences interethniques qui ont déjà fait 124 morts et près de 1500 blessés. Des combats qui opposent les Kirghizes à la minorité ouzbèque du pays. Débordé, l'Ouzbékistan vient d'annoncer qu'il fermait la frontière. Plus de 75 000 personnes se seraient déjà réfugiées dans ce pays. Le vice-premier ministre en appelle à l'aide internationale. La réunion avait été annulée au dernier moment la semaine dernière. Cette fois devrait être la bonne. Nicolas Sarkozy doit rencontrer Angela Merkel cet après-midi à Berlin. Le président français et la chancelière allemande vont se concerter sur les modalités de la future gouvernance économique européenne avant le sommet européen de jeudi. La commission d'enquête israélienne sur le raid contre la flottille pour Gaza ne satisfait pas le président de l'autorité palestinienne. Pour Mahmoud Abbas de passage à Paris, cette commission ne correspond pas aux demandes de l'ONU. Deux observateurs internationaux en feront bien partie, mais cette commission a un mandat limité qui ne lui permet pas notamment d'interroger les soldats israéliens. L'assaut du 31 mai contre la flottille pour Gaza avait fait 9 morts parmi les militants pro-palestiniens. Olivier Besancenot et 15 autres postiers des Hauts-de-Seine poursuivis pour séquestration. Ils sont convoqués par le tribunal correctionnel de Nanterre le 28 juin. Les faits se sont déroulés lors de l'occupation de la direction départementale de la Poste à Nanterre le 10 mai dernier. Des salariés grévistes de la Poste avaient occupé pendant plusieurs heures les locaux pour protester contre un projet de restructuration de la distribution du courrier dans le département. Le leader du NPA qui affirme qu'il n'y a pas eu de séquestration, dénonce une démarche pénale absurde et révoltante. Entrée en jeu réussie pour les Pays-Bas à la Coupe du Monde de football, l'équipe néerlandaise l'a emporté 2-0 contre le Danemark et dans le même groupe, le Cameroun s'apprête à rencontrer le Japon à Bloemfontein avec, on imagine, Jacques Vendroux, un avantage pour les Lions indomptables du Cameroun.
Oui, disons que sur l'ensemble de leur saison, eh bien, les Camerounais ont un petit avantage face au Japon. Le match vient de commencer à l'instant à Bloemfontein, un stade de 45 000 spectateurs qui a été construit en 52, si vous voulez tout savoir, Corinne. Au départ, c'est un stade de rugby qui a été rénové pour la Coupe du Monde de football. En tous les cas, il y a une belle ambiance dans ce match et c'est surtout la quatrième équipe du continent africain qui débute dans cette Coupe du Monde après le Nigeria, le Ghana et l'Algérie. Et tout le monde attend bien sûr beaucoup du Cameroun et tout le monde attend également beaucoup de Eto'o, Samuel Eto'o, l'ancien avant-centre de Barcelone, maintenant l'avant-centre de l'Inter de Milan. C'est une légende vivante au Cameroun et tout le monde compte un peu sur lui du côté camerounais pour essayer d'aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde. En tous les cas, nous jouons depuis 3 minutes et le score est de 0-0. L'Afrique du Sud, Jacques Vendroux, France Inter.
Merci Jacques. Et suite évidemment de ce match à 17h et au programme ce soir, je vous rappelle que le tenant du titre, l'Italie, affrontera le Paraguay, c'est à 20h30.
Question du mercredi. Une émission de France Inter et du journal Le Monde avec Dailymotion tous les mercredis à 19h20. Thomas Legrand.
Le gaullisme a 70 ans. Jean-Louis Debré, le président du Conseil constitutionnel, fils de Michel Debré, gaulliste historique, nous donnera sa définition du gaullisme d'aujourd'hui. Jean-Louis Debré et Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la République, seront nos invités dans les questions du mercredi.
Une émission présentée par Thomas Legrand avec Françoise Fressos du Monde, mercredi à 19h20. France Inter, partenaire du Festival Rio Loco à Toulouse, du 17 au 21 juin. Plus de 300 artistes. Maotela Queens, Abdoulaye Ibrahim, Idma Sekela, To Me and the Volume, hommage à Myriam Makeba. En direct le 17 juin à 22h, concert de Johnny Clegg présenté par Soro Solo et Vladimir Cagnolari. Et retrouvez l'Afrique enchantée le 20 juin à 17h. Rio Loco avec la Dépêche du Midi et France Inter. Et sur franceinter.com.
Livre Inter 2010, Les Hommes Couleurs de Chloé Corman. Un livre contemporain et romanesque à la fois. L'amour d'un couple, un enfant fugueur et aussi cette aventure folle d'un long tunnel creusé entre le Mexique et les États-Unis par où transitent des clandestins.
J'ai toujours voulu écrire sur les migrations. Je trouve très brutal le contraste entre des entreprises qui sont parfois mortelles, où les gens peuvent grimper sur des trains, tout ça pour mener une vie décente. Le roman, pour ça, c'est un art qui est magnifique parce que c'est un art humaniste.
Livre Inter 2010, Les Hommes Couleurs de Chloé Corman.
France Inter. France Inter. La différence.
Et pour changer des vouvouzela, 16h05 sur France Inter, c'est l'heure de Carrefour de l'Odéon. Frédéric L'Odéon, bonjour.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Comme notre chère journaliste Corinne voulait le dire, ben voilà la trompette qui est le début de notre générique, qui lance cette charge de la cavalerie tirée de Guillaume Tell de Rossini. Ben oui, c'est une trompette comme les vuvuzela qu'on entend en Afrique du Sud, quelquefois de manière un peu insistante dans le stade. Oui, quelquefois jusqu'à 100. Il y en a qui disent jusqu'à 127 décibels. Ouh là là, faut pas être devant le pavillon en tout cas. Plus doux maintenant. On va entendre un extrait des Quatre Saisons d'Antonio Vivaldi dédié à un grand ami de la musique qui vient de nous quitter. Il s'agit de Lucien Vanel. Il n'était pas musicien lui-même, mais il adorait cet art. Et puis, en plus, il recevait dans son restaurant, parce qu'il a été un restaurateur très, très important à Toulouse et ailleurs. Et avec sa femme Lucienne, que je salue d'ailleurs, on doit décerner aujourd'hui le prix Lucien Vanel 2010. Eh ben, il ne sera pas là. Et on l'embrasse de tout cœur. Donc, il souhaitait entendre, qu'on joue, en tout cas, peut-être qu'on entend quand même quand on est mort, je ne sais pas, à son enterrement, l'hiver des Quatre Saisons d'Antonio Vivaldi, voici l'interprétation de Giuliano Carmignola. We'll be right back. Allegro des quatre saisons de l'hiver, précisément d'Antonio Vivaldi par Giuliano Carmignola, avec l'ensemble baroque de Venise dirigé par Andrea Marcone. Donc en hommage à Lucien Vanel qui vient de nous quitter, je le rappelle, le grand cuisinier.